Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. 14e lettre. Première partie de 2. Thèbes, le 18 juin 1829. Depuis mon retour au milieu des ruines de cette aînée des villes royales, toutes mes journées ont été consacrées à l'étude de ce qui reste d'un de ses plus beaux édifices, pour lequel je conçus, à sa première vue, une prédilection marquée. La connaissance complète que j'en ai acquise maintenant la justifie au-delà de ce que je devais espérer. Je veux parler ici d'un monument dont le véritable nom n'est pas encore fixé et qui donne lieu à de fort vives controverses. Celui qu'on a appelé d'abord le Memnonium et ensuite le tombeau d'Ozymandias. Cette dernière dénomination appartient à la Commission d'Égypte. Quelques voyageurs persistent à se servir de l'autre, qui certainement est fort mal appliqué et très inexact. Pour moi, je n'emploierai désormais, pour désigner cet édifice, que son nom égyptien même, sculpté dans 100 endroits et répété dans les légendes des frises, des architraves et des bas-reliefs qui décorent ce palais. Il portait le nom de Ramesséion, parce que c'était à la munificence du pharaon Ramsès le Grand que Thèbes en était redevable. L'imagination s'ébranle et l'on éprouve une émotion bien naturelle en visitant ces galeries mutilées et ces belles colonnades, lorsqu'on pense qu'elles sont l'ouvrage et furent souvent l'habitation du plus célèbre et du meilleur des princes que la vieille Égypte compte dans ses longues annales, et toutes les fois que je le parcours, je rends à la mémoire de Sésostris l'espèce de culte religieux dont l'environnait l'Antiquité tout entière. Il n'existe du Ramesséion aucune partie complète, mais ce qui a échappé à la barbarie des Perses et aux ravages du temps suffit pour restaurer l'ensemble de l'édifice et pour s'en faire une idée très exacte. Laissant à part sa partie architecturale, qui n'est point de mon ressort, mais à laquelle je dois rendre un juste hommage, en disant que le Ramesséion est peut-être ce qu'il y a de plus noble et de plus pur à Thèbes, en fait de grands monuments, je me bornerai à indiquer rapidement le sujet des principaux bas-reliefs qui le décorent et le sens des inscriptions qui les accompagnent. Les sculptures qui couvraient les faces extérieures des deux massifs du premier pylône, construits en grès, ont entièrement disparu, car ces massifs se sont éboulés en grande partie. Des blocs énormes de calcaire blanc restent encore en place. Ce sont les jambages de la porte. Ils sont décorés, ainsi que l'épaisseur des deux massifs entre lesquels s'élevait cette porte, des légendes royales de Ramsès le Grand et de tableaux représentant le pharaon faisant des offrandes aux grandes divinités de Thèbes, Amon-Ra, Amon-Générateur, la déesse Mout, le jeune dieu Khons, Phtah et Mandou. Dans quelques tableaux, le roi reçoit à son tour les faveurs des dieux, et je donne ici l'analyse du principal d'entre eux, parce que c'est là que j'ai lu pour la première fois le nom véritable de l'édifice entier. Le dieu Atmou, une des formes de Fré, présente au dieu Mandou le pharaon Ramsès le Grand, casqué et en habits royaux. cette dernière divinité le prend par la main en lui disant « Viens, avance vers les demeures divines pour contempler ton Père, le Seigneur des dieux, qui t'accordera une longue suite de jours pour gouverner le monde et régner sur le trône d'Horus. » Plus loin, en effet, on a figuré le grand dieu Amon-Ra assis, adressant ses paroles au Pharaon. « Voici ce que dit Amon-Ra, roi des dieux, et qui réside dans le Ramesséion de Thèbes. Mon fils bien-aimé et de mon germe, seigneur du monde, Ramsès, mon cœur se réjouit en contemplant tes bonnes œuvres. Tu m'as voué cet édifice. Je te fais le don d'une vie pure à passer sur le trône de Sève, Saturne, c'est-à-dire dans la royauté temporelle. Il ne peut donc, à l'avenir, rester la moindre incertitude sur le nom à donner à ce monument. Les tableaux militaires relatifs aux conquêtes du roi couvrent les faces des deux massifs du pylône sur la première cour du palais. Ils sont visibles en assez grande partie parce que l'éboulement des portions supérieures du pylône a eu lieu du côté opposé. Ces scènes militaires offrent la plus grande analogie avec celles qui sont sculptées dans l'intérieur du temple d'Ibsambul et sur le pylône de Louxor, qui font partie du Ramesséion ou Ramsséion oriental de Thèbes. Les inscriptions sont semblables, et tous ces bas-reliefs se rapportent évidemment à une même campagne contre des peuples asiatiques qu'on ne peut, d'après leur physionomie et d'après leur costume, chercher ailleurs. Je le répète que dans cette vaste contrée sise entre le Tigre et l'Euphrate d'un côté, l'Oxus et l'Indus de l'autre, contrée que nous appelons assez vaguement la Perse. Cette nation, ou plutôt le pays qu'elle habitait, se nommait Chto, Cheto, Sheto ou Chto, car je me suis aperçu, enfin, que le nom par lequel on la désigne ordinairement dans les textes historiques et qui peut se prononcer Pcharan-Chetko, Pcharin-Cheto ou Pcharin-Eshto, vu l'absence des voyelles médiales, est composé de trois parties distinctes. Premièrement, d'un mot égyptien, épithète injurieuse Pchare, qui signifie une plaie. Deuxièmement, de la préposition en, de, que j'avais d'abord cru radical. Troisièmement, de chto, chto, cheto, véritable nom de la contrée. Les Égyptiens désignèrent donc ces peuples ennemis sous la dénomination de la plaie de cheto, de la même manière que l'Éthiopie est toujours appelée la mauvaise race de Kush. Ce n'est point ici le lieu d'exposer les raisons qui me portent à croire fermement que ces deux peuples du nord-est de la Perse, de Bactriens ou Sites-Bactriens, qu'il s'agit ici. On a sculpté sur le massif de droite la réception des ambassadeurs Sito-Bactriens dans le camp du roi. Ils sont admis en la présence de Ramsès, qui leur adresse des reproches. Les soldats, dispersés dans le camp, se reposent ou préparent leurs armes et donnent des soins aux bagages. En avant du camp, deux Égyptiens administrent la bastonnade à deux prisonniers ennemis, afin, porte la légende hiéroglyphique, de leur faire dire ce que fait la plaie de Cheto. Au bas du tableau, et l'armée égyptienne en marche, et à l'une des extrémités se voit un engagement entre les chars des deux nations. La partie gauche de ce massif offre l'image d'une série de forteresses desquelles sortent des Égyptiens emmenant des captifs. Les légendes sculptées sur les murs de chacune d'elles donnent leur nom et apprennent que Ramsès le Grand les a prises de vive force la 8e année de son règne. Il manque près de la moitié du massif de droite du pylône. Ce qui reste offre les débris d'un vaste bas-relief représentant une grande bataille, toujours contre les Chétos. Comme j'aurai l'occasion d'en décrire une seconde, tout à fait semblable et beaucoup mieux conservée, je passerai rapidement sur celle-ci, disant seulement qu'on y a représenté l'un des principaux chefs bactriens, nommé Chiropsiro ou Chiropassiro, blessé et gisant sur le bord du fleuve, vers lequel se dirige aussi, fuyant devant le vainqueur, un allié, le chef de la mauvaise race du pays de Shirbek ou Shilbesh. À côté de la bataille est un tableau triomphal. Ramsès le Grand, debout, la hache sur l'épaule, saisit de sa main gauche la chevelure d'un groupe de captifs au-dessus desquels on lit. Les chefs des contrées du Midi et du Nord conduisent en captivité par sa majesté. Les colonnades qui fermaient latéralement la première cour n'existent plus aujourd'hui. Le vaste espace compris jadis entre ces galeries et les deux pylônes est encombré des énormes débris du plus grand et du plus magnifique colosse que les Égyptiens aient peut-être jamais élevé. C'était celui de Ramsès le Grand. Les inscriptions qui le décorent ne permettent pas d'en douter. Les légendes royales de cet illustre pharaon se lisent en grands et beaux hiéroglyphes vers le haut des bras et se répètent plusieurs fois sur les quatre faces de la base. Ce colosse, quoique assis, n'avait pas moins de 35 pieds de hauteur, non compris la base, second bloc d'environ 33 pieds de long sur 6 de haut. Il faut admirer à la fois la puissance du peuple qui érigea ce merveilleux colosse et celle des barbares qui l'ont mutilé avec tant d'adresse et de soin. Ce beau monument s'élevait devant le massif de gauche du second pylône ou mur, détruit jusqu'au niveau du sol actuel. C'est par nos fouilles que je me suis assuré que l'on avait aussi couvert ce massif de sculptures représentant des scènes militaires. J'y ai retrouvé le bas d'un tableau représentant le roi, après une grande bataille, recevant des principaux officiers le compte des ennemis tués dans l'action et dont les mains coupées sont entassées à ses pieds. Plus loin existait une inscription toujours relative à la guerre contre les Chétos. Le peu qui reste des dernières lignes, interrompues par de nombreuses fractures, m'a fait vivement regretter la destruction de ces documents historiques abondants en noms propres et en désignations géographiques. Il y est surtout question des honneurs que le roi accorde à deux chefs scythes ou bactriens, Hiroshto-Assiro, grand chef du pays de Cheto, et Peshor-Senmausiro, qualifié aussi de grand chef. Ce sont très probablement les gouverneurs établis par le conquérant après la soumission du pays. Les sculptures du massif de droite du deuxième pylône, ou mur, subsistent en très grande partie sous la galerie de la seconde cour à droite en entrant. C'est le tableau d'une bataille livrée sur le bord d'un fleuve, dans le voisinage d'une ville que saignent deux branches de ce fleuve, et sur les murailles de laquelle on lit « La ville forte Watch » ou Batch, La première lettre est douteuse. Vers l'extrémité actuelle du tableau, à la gauche du spectateur, l'on voit le roi Ramsès sur son char lancé au galop, au milieu du champ de bataille couvert de morts et de mourants. Il décoche des flèches contre la masse des ennemis en pleine déroute. Derrière le char, sur le terrain que le héros vient de quitter, sont entassés les cadavres des vaincus, sur lesquels s'abattent les chevaux d'un chef ennemi nommé Torokani, blessé d'une flèche à l'épaule et tombant sur l'avant de son char brisé. Sous les pieds des coursiers du roi gisent, dans diverses positions, le corps de Torokato, chef des soldats du pays de Nakbesu, et ceux de plusieurs autres guerriers de distinction. Le grand chef bactrien Shiropasiro se retire sur le bord du fleuve. Les flèches du roi ont déjà atteint Tioturo et Simai Rossi, fuyant dans la plaine et se dirigeant du côté de la ville. D'autres chefs se réfugient vers le fleuve, dans lequel se précipitent les chevaux du chef Krobchatossi, blessé, et qu'ils entraînent avec eux. Plusieurs, enfin, tels que Totaro et Maferima, frères, alliés, de la plaie de Cheto, des Bactriens, sont allés mourir en face de la ville, sur la rive du fleuve, que d'autres, tels que le Bactrien Sipafero, ont été assez heureux pour traverser, secourus et accueillis sur la rive opposée par une foule immense accourue pour connaître le résultat de la bataille. C'est au milieu de tout ce peuple amoncelé qu'on aperçoit un groupe donnant des secours empressés à un chef que l'on vient de retirer du fleuve, où il s'est noyé. On le tient suspendu par les pieds, la tête en bas, et on s'efforce de lui faire rendre l'eau qui le suffoque afin de le rappeler à la vie. Sa longue chevelure semble ruisseler et le traitement ne produira aucun effet si l'on en juge par la physionomie et le mouvement de l'assistance. On lit au-dessus de ce groupe: le chef de la mauvaise race du pays des Shirbesh, qui s'est éloigné de ses guerriers en fuyant le roi du côté du fleuve. Enfin, au milieu de la foule sortie de la ville par un pont jeté sur l'une des branches du fleuve, on remarque des symptômes d'un prochain changement dans l'état des esprits. Un individu adresse un discours à ceux qui l'entourent. Sa harangue a pour but d'encourager ses compatriotes à se soumettre au joug de Ramsès le Grand. On lit en effet, au-dessus du bras de l'orateur, le commencement d'une inscription ainsi conçue: « Je célèbre la gloire du Dieu gracieux, parce qu'il a dit... » Le reste est détruit. J'ai voulu, en entrant dans tous ces détails, donner une idée des bas-reliefs historiques dont on décorait les grands monuments de l'Égypte, de ces compositions immenses que je me plais à nommer des tableaux homériques ou de la sculpture héroïque, parce qu'ils sont pleins de ce feu et de ce désordre sublime qui nous entraîne à la lecture des batailles de l'Iliade. Chaque groupe considéré à part sera trouvé certainement défectueux dans quelques points relatifs à la perspective ou aux proportions, comparativement aux parties voisines. Mais ces petits défauts de détail sont rachetés, et au-delà, par l'effet des masses, et j'ose dire ici que les plus beaux vases grecs représentant des combats pêchent précisément, si péché il y a, sous les mêmes rapports que ces bas-reliefs égyptiens. Sur le haut de cette grande paroi, on a sculpté un long bas-relief, mutilé au commencement et à la fin, représentant Ramsès le Grand célébrant la panégyrie du grand dieu de Thèbes, le double Horus, ou Amon générateur. Comme j'aurai l'occasion de décrire une fête semblable, existant dans tout son entier au palais de Médinet-Habou, je me contenterai de dire que c'est ici qu'existe une série de statuettes de rois rangées par ordre de règne. Ce sont, premièrement, Ménès, le premier roi terrestre, deuxièmement, un prénom inconnu, antérieur à la 17e dynastie, troisièmement, Amosis, quatrièmement, Amenophte Ier, cinquièmement, Toutmosis Ier, sixièmement, Toutmosis III, septièmement, Amenophte II, huitièmement, Toutmosis IV, neuvièmement, Amenophte III, dixièmement, Horus, onzièmement, Ramsès Ier, douzièmement, Ouseraï, treizièmement, Ramsès le Grand lui-même. Cette série ne donne que la ligne directe des ancêtres du conquérant. Ainsi, Toutmosis II est omis parce que Toutmosis III, Mueris, était fils d'une fille de Toutmosis Ier. De nombreux bas-reliefs représentant des actes d'adoration du roi Ramsès aux grandes divinités de Thèbes couvrent trois faces des piliers formant la galerie devant le pylône. Sur la quatrième face de chacun d'eux, on voit, sculptée de plein relief, une image colossale du roi d'environ 30 pieds de hauteur. Voici les légendes les mieux conservées des quatre qui subsistent encore. Le Dieu gracieux a fait ses grandes constructions. Il les a élevées par son bras, lui, le roi soleil, gardien de justice, approuvé par Phré, le fils du soleil, l'ami d'Amon, Ramsès, le bien-aimé d'Amon-Ra. Le dieu gracieux dominant dans sa patrie l'a comblé de ses bienfaits, lui, le roi soleil, etc. Le bien-aimé d'Amon-Ra, le dieu gracieux, chef plein de vigilance, le plus grand des vainqueurs, a soumis toutes les contrées à sa domination, lui, le roi soleil, etc. Le bien-aimé de la déesse Mout. Ainsi, ces inscriptions rappellent tout ce que l'Antiquité s'est plu à louer dans Sésostris, les grands ouvrages qu'il a fait exécuter, les bonnes lois qu'il donna à sa patrie, et la vaste étendue de ses conquêtes. Les piliers ornés de colosses qui font face à ceux-ci et les colonnes qui formaient la seconde cour du palais, du côté droit, se font aussi remarquer par la richesse des tableaux religieux qui les décorent. Les piliers et les colonnades qui formaient la partie gauche de la cour sont entièrement détruits. Je ne m'étendrai point sur les intéressants bas-reliefs qui couvrent la partie gauche du mur du fond du péristyle. Je me hâte d'entrer dans la salle hypostyle, dont environ 30 colonnes subsistent encore intactes et charmeraient par leur élégante majesté les yeux même les plus prévenus contre tout ce qui n'est pas architecture grecque ou romaine. Quant à la destination de cette belle salle, à la disposition des colonnes et à la forme des chapiteaux qui les décorent, je laisserai parler sur ces divers points la dédicace elle-même de la salle, sculptée au nom du fondateur, sur les architraves de gauche en très beaux hiéroglyphes. Laro Eris puissant, ami de la vérité, le seigneur de la région supérieure et de la région inférieure, le défenseur de l'Égypte, le castigateur des contrées étrangères, l'Horus resplendissant, possesseur des palmes et le plus grand des vainqueurs, le roi seigneur du monde, soleil gardien de justice approuvé par Frey, le fils du soleil, le seigneur des diadèmes, le bien-aimé d'Amon, Ramsès, a fait exécuter ses constructions en l'honneur de son père Amon-Ra, roi des dieux. Il a fait construire la grande salle d'assemblée en bonne pierre blanche de grès, soutenue par de grandes colonnes à chapiteaux imitant des fleurs épanouies, flanquées de colonnes plus petites à chapiteaux imitant un bouton de lotus tronqué, salle qu'il voue au Seigneur des dieux pour la célébration de sa panégyrie gracieuse. C'est ce qu'a fait le roi de son vivant. Ainsi donc, les salles hypostyles qui donnent au palais égyptien un caractère si particulier furent véritablement destinées, comme on le soupçonnait, à tenir de grandes assemblées, soit politiques, soit religieuses, c'est-à-dire ce qu'on nommait des panégyries ou réunions générales. C'est ce dont j'étais déjà convaincu avant d'avoir découvert cette curieuse dédicace. Parce que, observant la forme du caractère hiéroglyphique exprimant l'idée panégyrie sur les obélisques de Rome, où ce caractère est sculpté en grand, je m'étais aperçu qu'il représentait, au propre, une salle hypostyle avec des sièges disposés au pied des colonnes. C'est à l'entrée de la salle hypostyle du Ramesseion, à droite, qu'existe un bas-relief dans lequel on a représenté la reine-mère du conquérant. Elle se nommait Taouaï. Une belle statue de cette princesse existe aussi au Capitole. J'en avais copié les inscriptions, mais des fractures pouvaient donner lieu à quelques incertitudes. Elles sont levées par le bas-relief que j'ai sous les yeux. On trouve du même côté un grand tableau historique décrit ou dessiné par tous les voyageurs qui ont visité l'Égypte. Le seul dessin exact que l'on puisse citer est celui que M. Caillot a publié dans son « Voyage à Méroé ». J'en ai fait prendre une copie plus en grand. Et j'ai transcrit moi-même les légendes, qui sont intéressantes, quoique incomplètes sur plusieurs points. C'est encore ici un grand tableau de guerre, mais qui se partage en deux parties principales. Dans une vaste plaine, le roi Ramsès vient de vaincre les Chétos, qu'il a mis en pleine déroute. Deux princes sont à la poursuite de l'ennemi. Ses fils du roi se nomment Mandouhi Chopsh et Chatkemkeme. C'était le quatrième et le cinquième des enfants de Ramsès. Les vaincus sont encore des peuples de Chéto. Des Bactriens? Point d'interrogation. Ils se dirigent vers une ville placée à l'extrémité droite du tableau, où s'ouvre une nouvelle scène. Quatre autres fils du conquérant, les septième, huitième, neuvième et dixième de ses enfants, appelés Meiyamun, Amenhemwa, Nubtei et Setpanre, sont établis sous les murs de la place. Les assiégés opposent une vigoureuse résistance. Mais déjà, les Égyptiens ont dressé les échelles et les murailles vont être escaladées. Une fracture a malheureusement fait disparaître la première partie du nom de la ville assiégée. Il ne reste que les syllabes Apuro. Fin de la première partie de 2 de la 14e lettre ainsi que du 14e fichier des lettres écrites d'Égypte et de Nubie par Jean-François Champollion.